les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Le dossier du jour avec Sarah qui nous parle des femmes dans les séries. Bonjour.
Bonjour Alex.
Alors aujourd'hui, un dossier un peu spécial puisqu'on reçoit Marjorie Osley qui a réalisé un mémoire à l'Université catholique de Louvain en Belgique sur la représentation de la femme dans Ally McBeal.
Et oui, mais moi aujourd'hui je vais vous parler un peu des femmes en général parce que les femmes à la télévision ça a fait couler beaucoup d'encre et surtout le sujet sur les stéréotypes parce qu'avant le mémoire de Marjorie, il y avait quand même pas mal de choses écrites. Probablement que c'est lié à la libération culturelle et probablement aussi que c'est lié au fait que ces personnages ne lui ressemble pas vraiment, vraiment. Donc je me suis dit qu'une petite mise en place, un petit rappel historique ne ferait peut-être pas de mal, quoi. Alors les femmes, elles sont souvent très jolies, merci pour nous, mais souvent potiches. Rappelez-vous de la blonde dans L'homme qui tombe à pic, ou des secrétaires en tout genre amoureuses de leur patron, comme celle de James Bond, qui n'est pas une série, mais enfin bon.
Sans oublier Wonder Woman.
Ouais, mais Wonder Woman, elle est quand même plus active qu'une potiche de base, on va dire.
Moi, je parlais physiquement.
Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas moche non plus. À côté des potiches, on a les mères au foyer, et ça c'est pas du tout Wonder Woman, à peu près toutes les comédies familiales comme Un toit pour 10, Alf, etc. Et encore à côté de ces mères au foyer, on a les victimes ou les putains, généralement dans les policiers, elles sont parfois même d'ailleurs les deux, et putains et victimes. Et généralement, elles embrassent aussi le héros à la fin, tu vois, ça c'est une spécialité à la Magnum, ou Agence Touriste, ou K2000.
La grande scène romantique de fin d'épisode.
Romantique, je ne sais pas, mais en tout cas, elle revenait souvent. Tu me parlais de Wonder Woman, on a aussi bien l'une ou l'autre super-héros, on a Super Jamie aussi, souvenez-vous de la femme bionique. Effectivement, elles sauvent le monde, mais elles sortent pas vraiment non plus des clichés très féminins, donc elles sauvent le monde, mais avec des ongles bien manucurés, par exemple, et avec un short magnifique qui rentrait dans les canaux de l'époque. Ceci dit, dire que les femmes sont toutes potiches, mères au foyer ou victimes, c'est pas tout à fait vrai non plus. Il faut savoir que chaque décennie connaît bien l'une ou l'autre figure intéressante, et c'est pour ça que je vous propose de faire un petit tour des décennies, justement.
On est parti.
Dans les années 50, I Love Lucy, une série qui est probablement inédite en Belgique, j'ai l'impression en tout cas, qui était une comédie familiale, dans laquelle on avait le traditionnel opposition entre la femme et le mari et le couple et les voisins, comme dans Ma sorcière bien-aimée. La différence, c'est qu'ici, Lucy désire sortir de son foyer et donc entrer dans le monde du spectacle. Et on voit que finalement, il y a un petit décalage entre ce qu'elle devrait être, ce que l'époque voudrait qu'elle soit, et ce qu'elle veut être.
Avec l'incroyable Lucille Ball, qui était notamment la productrice de Star Trek.
Les années 60, là on a les Steed Girls, donc Emma Peel, mais on oublie souvent par exemple Kathy Gale, qui était la première et qui était anthropologue, donc qui avait quand même un cerveau. On a ensuite Emma Peel, qui était vraiment une femme très indépendante, très sexy, très assumée aussi. Et enfin Tara King, qui était plus jeune, mais qui avait aussi un côté assez expiègle et qui savait répondre à John Steed quand il fallait.
Très très fougueuse en tout cas.
Dans les années 60, on a aussi Ma sorcière bien-aimée, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est toujours femme au foyer, qu'elle est toujours mère de famille, mais elle s'affirme quand même de plus en plus face à son mari et face au patron de son mari. Et donc même si elle reste dans son foyer, on a quelque chose un peu différent de toutes les autres séries qu'on pouvait avoir. Et enfin, on a aussi des femmes dans les groupes. C'est un peu une question de quota. On doit avoir une personne de couleur. On a aussi les femmes. Et là, évidemment, on ne peut penser qu'à Mission Impossible avec la belle Barbara Bain qui jouait Cinnamon. Dans les années 70, on ne peut pas ne pas parler des drôles de dames qui sont très controversées, mais qui sont aussi un pas en avant vers la libération sexuelle. Ce sont des femmes d'action avec un vrai rôle de flic pour une fois. Elles se battent, par exemple. Mais ce sont aussi des potiches parce que finalement, elles sont bien habillées et sexy et c'est ça qui compte. Alors, dans les années 80, les femmes participent à l'action. Mais c'est en comble, elles sont souvent accompagnées de leur mari. Alors là, je vous cite L'amour du risque, à mon avis, c'est le stéréotype du genre, où elles peinent à trouver un réel statut comme Amanda qui reste au foyer tout en étant espionne dans Les deux font la paire. Et elles sont aussi parfois cantonnées à certaines professions quand ce sont les héroïnes. Joëlle Mazar, par exemple, qui peut tout à fait être assistante sociale parce que les filles peuvent être assistantes sociales, mais à mon avis, elles ne peuvent pas être astronautes déjà. On a aussi, par exemple, Arabesque dans les années 80, mais ça reste quand même assez classique. Il reste quelques figures quand même intéressantes. Julie Parrish, par exemple, la chef de la résistance, ou Diana, le commandant des extraterrestres dans V, qui sont deux rôles assez forts. Et dans un genre tout à fait différent, on a Roseanne, on peut montrer des femmes un peu plus rondes, et on peut montrer des femmes qui sont parfois des losers, et ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Les années 80 vont montrer un tournant, mais ça on va en parler tout à l'heure. My nails are dry now. Let's go to that place on 45th Street. Oh, I hear they have wonderful steaks. Well, I don't particularly feel like a steak. Sounds wonderful. We'll go there. Now wait just a minute, Lucy. What's the matter? Well, I just had about enough of this.
first you keep everybody waiting while you're fixing your nails. Then you keep interrupting me while I'm telling the story. And now you decide all by yourself where we're going to eat dinner because you want a steak.
Well, Ricky,
I don't feel like eating steak tonight. I want to eat spaghetti tonight.
Well, maybe...
So we're going to eat spaghetti?
Yes, sir.
And the next time that I tell a story, you stay out of it?
Yes, sir.
And be on time from now on, or we're going to go without you?
Yes, sir.
We're going to run this house like we do in Cuba, where the man is the master and the woman does what she's told.
Si, senor.
And don't get smart. Now go get your coat.
Oh, yeah? Atta girl, Lucy. I was wondering what happened to you. It just sunk in. I don't know how you treat your women in Cuba, but this is the United States, and I have my rights.
I am not arguing about women's rights. I am the first one to agree that women should have all the rights they want, as long as they stay in their place. That's honor.
Oh, you're just as bad as he is, Fred. You men tell us that we have equal rights, but you certainly don't give us a chance to act like it.
What do you want? You've got the vote. You wear pants. You drive buses. You wrestle. You go every place you please except the steam room and the YMCA.
That isn't true. Equal rights means just what it says, equal rights.
Well, that's a good explanation.
Oh, you know what she means.
Yes, and we want to be treated that way. From now on, everything is equal. We want to be treated exactly as if we were men.
Well, this calls for a little conference. Pardon me, mister. Okay. From now on, you have equal rights. We will treat you exactly as if you were men. Is it a deal?
It's a deal.
What about you, Mac?
It's a deal.
Cette décennie, justement, elle est intéressante parce que les femmes deviennent petit à petit l'égale des hommes. Ça se voit dans certaines séries comme Friends ou Twin Peaks ou Urgence, où finalement, il n'y a aucun décalage et on ne fait jamais sentir qu'elles sont des femmes. Ça marche aussi dans les policiers comme Homicide ou New York District, New York Police d'État, Brooklyn Sauce, etc. Elles deviennent même parfois des héroïnes, Dr. Quinn, Profiler, Buffy, tout ça c'était pendant les années 90. Idem en France, on a Julie Lescaut, les femmes de loi. Et on retrouve aussi des quadragénaires un petit peu trash comme Roseanne, mais cette fois-ci ce sont des Anglaises et c'est absolutely fabulous. Et finalement on en arrive à la fin des années 90 avec ceux qui sont reconnus comme des féministes ou des séries qui commencent un petit peu à attaquer le sujet. On commence en douceur avec Ally McBeal et puis c'est plus appuyé dans Sex and the City. Et finalement l'action repose, que ça soit des hommes ou des femmes, toujours sur des gens qui ont du cran. Et au rayon femme on peut par exemple souligner Alias ou Dark Angel. Seulement il faut pas se fier finalement aux apparences parce que par exemple dans le cas d'Ally McBeal, et c'est là que Marjorie va intervenir, on se rend compte que finalement elles sont pas si anticonformistes que ça.
Le personnage d'Ally McBeal est plutôt mitigé au point de vue du conformisme. On peut dire que c'est clair qu'elle a certains traits non conformistes, elle en a même, on peut dire, la moitié, mais son autre côté conformiste est aussi très prononcé. Tout cela dépend du thème abordé. Si on parle d'Ally McBeal, du personnage dans le travail, c'est clair que là, c'est un personnage tout à fait anticonformiste. Par contre, si on se tourne vers sa vie sentimentale, à ce moment-là, on se rend compte que on rentre dans les clichés du style la femme qui cherche absolument le grand amour de sa vie, qui ne cherche qu'à se marier, avoir une vie de famille comblée avec des enfants et un petit mari, et voilà.
Quand tu dis qu'elle est anticonformiste au travail, ça veut dire quoi? Qu'elle en veut et qu'elle parvient à s'assumer?
Oui, voilà, elle en veut, elle est plutôt brillante, contrairement au stéréotype de la femme assistante ou secrétaire. Là, il s'agit d'une avocate à part entière qui deviendra même associée du cabinet, donc on peut dire qu'elle a un poste à responsabilité, un poste important. De plus, comme je le disais, donc c'est une avocate présentée comme brillante, contrairement par exemple à son patron, Richard Fish, qui est l'avocat, bon, doué pour les affaires, mais complètement nul pour tout ce qui est plaidoirie. Elle s'oppose donc à un personnage homme. Sur ce point-là, c'est elle la femme brillante.
Dans Ally McBeal, il n'y a pas que Ally McBeal. Est-ce que les autres femmes ont le même traitement ou est-ce qu'il y en a qui sont réellement anticonformistes?
Oui, il y a des personnages tout à fait anticonformistes, comme Nell Porter et Ling Wu, qui sont les deux personnages, on va dire, antipathiques, qui, quand on creuse un peu, on leur trouve des qualités, mais c'est vrai qu'en général, ce sont des femmes non soumises et même dominatrices, contrairement à Ali McBeal, donc qui n'est pas soumise, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle essaye de prendre le dessus. Ici, nous avons donc ces deux personnages-là qui sont dominatrices, et Ling et Nell sont donc deux personnages complètement anticonformistes, car elles sont plutôt dominatrices.
Alors les hommes, comment ils les voient les femmes dans Ali McBeal ? Ils aimeraient bien qu'elles soient des femmes au foyer, ou alors ils acceptent complètement ce qu'elles sont ?
Ça, on peut constater en fait que le discours des personnages masculins et des personnages féminins se rejoint très fort. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un discours anticonformiste, mais relativement conformiste sur pas mal de choses. Pour ça, ils ont plus ou moins le même discours que les femmes. Ils leur reconnaissent des talents dans leur travail. Ils reconnaissent qu'elles sont brillantes, qu'elles sont intelligentes. Elles ne sont sûrement pas considérées comme inférieures. Mais aussi, ils leur voient un côté assez poupée Barbie. Donc, ils n'hésitent pas à utiliser leur atout physique pour gagner des procès.
Ce type me rend nerveuse. Il me fait craquer, c'est bête. Il est venu dans mon bureau 2 minutes, j'étais dans tous mes états.
Si tu es amoureuse, c'est logique que tu sois nerveuse, c'est le test. Moi, si un mec ne me rend pas dingue, c'est même pas la peine.
Ah oui ? Pourquoi est-ce que je perds les pédales quand c'est sérieux ? Il est charmant, il est beau, il est médecin.
Bon. Quand je suis nerveuse, je leur montre mes seins.
Qu'est-ce que tu fais ?
Pas vraiment. Mais dans ma tête, ce sont mes seins qui attirent les mecs en premier. Alors, pour avoir confiance en moi, je focalise mon estime de moi, là, sur mes nichons. C'est stupide, mais ça marche.
Tu sais, j'adorerais que tes seins me donnent confiance en moi, mais...
Qu'est-ce que le mec regarde chez toi ?
J'en sais rien. Mes yeux de biche, peut-être ?
Ça, c'est du roman photo. Les mecs ne regardent pas les yeux. Quoi d'autre ?
Je sais pas. Mes lèvres ?
Mieux. Donc, si ce type te met mal à l'aise, focalise sur tes lèvres.
Oh, c'est débile.
Pas tant que ça. Je sais que ta psy est bien, mais dans ce domaine-là, je suis la meilleure.
Crois-moi. Ouais, mais là, il ne s'agit pas d'un petit flirt dans une boum. Tu sais cette chanson « Bonne nuit, mon amour » que je chante tous les soirs ? Je crois que lui, il pourrait être cet amour-là.
Focalise sur tes lèvres.
Les femmes, quand elles sont conformistes, se font encore critiquer par les autres.
Oui, donc on peut dire que dans la série, donc on reprend beaucoup d'exemples conformistes. Enfin, les femmes sont souvent très conformistes sur certains plans, donc comme la vie sentimentale. Mais on peut aussi dire qu'en général, ces stéréotypes sont repris par les autres personnages, que ce soit les personnages masculins ou féminins, pour qu'ils soient contredits ou critiqués. Donc par exemple, quand Ali McBeal part dans ses délires de vie parfaite avec un petit mari, ses enfants, une maison, le stéréotype classique, elle est souvent critiquée par les autres personnages. Donc on peut nuancer le fait que le conformisme face au stéréotypes soient mis en avant.
Parfois, on a l'impression que les écrits qui parlent des stéréotypes et du conformisme sont eux-mêmes un ramassis de stéréotypes et que l'analyse que les gens font parfois reflète justement ce qu'eux voudraient bien y trouver. Toi, tu as utilisé une méthode qui est un peu autre justement dans ton mémoire. Tu peux peut-être nous en parler. Tu as fait des comptages et des relevés quantitatifs notamment.
Oui, donc ma crainte première était d'être trop subjective et donc j'ai essayé d'utiliser la méthode la plus objective possible. Et pour ça, un moyen qui m'a semblé intéressant était de reprendre les adjectifs donc que j'entendais dans la série et de les compter. Donc j'ai repris tous les adjectifs que j'entendais, je les ai comptés et je les ai comparés par rapport au discours traditionnel donc que j'avais pu trouver dans de nombreux ouvrages.
Et tu comparais aussi ce que les hommes disaient de ce que les femmes disaient.
Quand j'ai effectué ce comptage, j'ai donc pris en compte le discours des hommes et le discours des femmes à l'intérieur de chacun de ces discours. J'ai tenu compte de la connotation positive et négative qui était donnée à chacun de ces adjectifs. Et aussi, j'ai tenu compte du conformisme par rapport aux stéréotypes traditionnels que j'ai retrouvés dans de nombreux ouvrages scientifiques.
Et tu as aussi, mais ça c'est peut-être le dire en deux mots, chronométré le temps de parole des femmes, parce que tu t'étais rendu compte que dans les années 60, les femmes n'avaient pas toujours la parole autant que les hommes. Ouais. C'est plus le cas ici en fait.
Oui, tout à fait. Donc je suis retombée sur certaines conclusions sur des travaux qui dataient des années 80 aussi. J'ai trouvé d'ailleurs un travail très intéressant de Gabrielle Tovron qui date de 1987, donc 10 ans avant la diffusion du premier épisode d'Ally McBeal. Et donc dans ce travail, Gabrielle Tovron remarquait que les femmes avaient souvent moins de temps de parole que les hommes à des moments importants, donc à des heures importantes de la journée aussi, ça dépendait des heures de diffusion. Et donc j'ai décidé de regarder pour voir si dans Ally McBeal, finalement, Ally McBeal c'est quand même le personnage central, c'est une femme, est-ce qu'elle avait plus le droit à la parole que les autres personnages, est-ce que les femmes en général avaient plus le droit à la parole. Et j'ai constaté donc que oui, en général, elles ont plus le droit à la parole, mais si je fais une moyenne de l'ensemble des épisodes que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé une quinzaine d'épisodes, j'arrive à 52% de temps de parole des femmes contre 48% de temps de parole des hommes. Donc la différence n'est pas énorme pour une série qui est souvent qualifiée de féministe et qui est censée donner la parole aux personnages féminins.
Alors justement, tu dis qu'il est souvent dit féministe, et probablement une des raisons pour laquelle on voit ou on croit qu'Ally McBeal est anticonformiste, c'est parce que les médias finalement ont rendu cette série anticonformiste. Ils n'arrêtaient pas de le dire. Au début, c'est une série qui parle des femmes et qui en parle différemment. Ils ont aussi axé beaucoup sur certains détails, comme les mini-jupes de Ally McBeal ou comme les toilettes mixtes. Et finalement, tout ce qui est un petit peu différent dans l'histoire fait qu'on a tendance à penser que tout ce qui est dedans est un peu différent ou un peu novateur. Et en plus de ça, probablement que, mais ça je ne sais pas quelle est ta vue là-dessus, probablement que les saisons sont de plus en plus conformistes quand on avance dans le temps, parce que la première saison finalement était plus intéressante que la cinquième, qui est carrément mal perçue par tous les fans. Je ne sais pas si tu as vu des différences entre les saisons.
Entre les saisons, oui, mais ça évolue plutôt en dents de scie. On ne peut pas dire vraiment que c'est de moins en moins anticonformiste, mais on peut remarquer par exemple que la première saison est plus conformiste, la deuxième est moins conformiste, puis ça revient comme ça jusqu'à la fin. C'est vrai que la dernière saison est plus conformiste que les autres, mais en même temps on peut voir par exemple en ce qui concerne le thème du travail, parce que j'ai aussi travaillé par thème, quand on regarde le personnage d'Ally McBeal dans la première saison, elle n'est pas du tout sûre d'elle, alors que dans la dernière saison c'est quand même une associée principale, et pour ça elle a gagné en assurance, ce qui contredit un peu le stéréotype traditionnel lié à la femme.
En tout cas, merci beaucoup Marjorie, je pense que ceci remet un peu quelques idées en place concernant les femmes à la télé.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.